Nous vous souhaitons la bienvenue à la collection muséographique de mosaïques romaines de Casariche. Dans les différentes salles du musée, vous aurez l'occasion de découvrir le processus de romanisation de l'Hispanie et de la Bétique, à travers trois de nos sites archéologiques les plus importants. Pendant la visite, nous explorerons en profondeur une partie de l'histoire de Casariche. Les sites archéologiques se trouvent sur le Cerro de la Atalaya, sur lequel se dressait probablement l'ancienne ville de Ventipo au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi les carrières romaines du Cerro Bellido et le village d'El Alcaparral. Pour toute suggestion ou demande d'information, nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter sur le site web de la collection muséographique et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de nos contenus, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service d'information vous répondra avec plaisir. Nous espérons que vous apprécierez la visite et reviendrez nous voir prochainement. Merci.
La visite commence au premier étage. Bien qu'il y ait un ascenseur, nous allons prendre l'escalier. Montons ensemble.
Allons-y !
Nous tenons à rappeler aux visiteurs et visiteuses que pour bien comprendre l'histoire de Casariche, il est important de connaître son passé. Et un lieu tel que celui-ci est le meilleur endroit pour le faire. Nous vous souhaitons une bonne visite.
Toutes les salles comportent une numérotation. Vous trouverez ces numéros sur le panneau situé à l'entrée de chaque salle. Dirigeons-nous vers la première salle. J'espère que vous l'apprécierez et qu'elle sera riche en enseignements.
Moi, j'espère qu'on ne va pas s'ennuyer. À l'école, on nous a parlé de notre passé et des Romains. Comment est-ce possible si nous sommes Andalous et que nous habitons l'Andalousie ?
À cette époque, l'Espagne s'appelait l'Hispanie. Les gens réalisaient des échanges commerciaux dans le bassin méditerranéen. La mer était aussi le moyen d'atteindre et de dominer d'autres régions.
Les Romains sont arrivés sur nos côtes et celles d'autres pays pour y ouvrir de nouvelles routes commerciales et y rechercher de nouveaux territoires à conquérir. Petit à petit, ils ont bâti un grand empire autour de la Mare Nostrum, une expression latine qui signifie « notre mer ». Nous connaissons aujourd'hui ce lieu sous le nom de mer Méditerranée. Avant de poursuivre, nous souhaitons rappeler que les objets exposés dans les vitrines de cette salle sont des reproductions d'originaux.
Comme vous le verrez, la première vitrine contient la reproduction d'une ancre. Elle provient d'une embarcation qui naviguait autrefois sur les fleuves et rivières. L'ancre est le symbole de l'importance de la navigation fluviale à cette époque. Les Romains préféraient établir leurs villes près de rivières car ils les transformaient en routes commerciales et s'en servaient pour irriguer les cultures.
Et pourquoi ont-ils parcouru tout ce chemin jusqu'ici ?
Ils sont venus d'une part chercher de nouveaux territoires à dominer et d'autre part des ressources minières et agricoles à exploiter. Les ports fluviaux leur permettaient de charger des marchandises à destination de Rome et d'autres lieux de la Méditerranée. Ils exportaient de l'huile, du vin, du garum, ainsi que des minerais et des céréales.
Le Guadalquivir n'était pas le seul fleuve navigable. Les Romains naviguaient également sur certains de ses affluents, tels que le Singilis, l'actuelle rivière Guénil, qui permettait le trafic fluvial jusqu'à Astigi, l'actuelle commune d'Écija.
Les habitants d'Hispanie se sont laissés envahir !
Les Romains possédaient une grande armée formée d'excellents soldats. Il était donc difficile de les vaincre. C'est pourquoi ils sont progressivement devenus les maîtres du monde méditerranéen. À leur arrivée en Hispanie, ils ont conquis et divisé le territoire en plusieurs provinces. La province romaine de Baetica occupait presque toute l'Andalousie et tirait son nom de la rivière Baetis, que nous appelons aujourd'hui Guadalquivir.
Pendant les siècles de domination de l'Hispanie, les Romains ont imposé à la population leur mode de vie, leurs coutumes, leur religion et leurs lois.
Les textes des vitrines relatent les événements politiques et militaires qui se sont déroulés dans la région. Jules César battit les Pompéiens lors de la bataille de Munda et, à son retour à Rome, fut investi de la charge de dictateur perpétuel. Les historiens situent la bataille dans les environs de Ventipo, une ville commerciale importante qui frappait alors sa propre monnaie. À la fin de la guerre, César offrit à ses légionnaires de petits lopins de terre, ce qui favorisa le processus de romanisation de la région. C'est à cette époque que la Baetica est devenue l'une des provinces romaines les plus riches.
Ventipo ? Je n'ai jamais entendu parler de cette ville. C'est près d'ici ?
Selon différentes sources, cette cité aurait été édifiée sur le Cerro de la Atalaya.
J'ai entendu dire tout à l'heure que les Romains vendaient beaucoup de marchandises. Mais j'aimerais savoir comment ils faisaient pour transporter l'huile ou le vin.
Dans cette autre vitrine, nous pouvons voir la reproduction d'une amphore romaine, utilisée pour le stockage et le transport de ces produits. Allons dans la deuxième salle, afin d'en savoir plus sur Ventipo.
Nous terminons par un document audiovisuel, où vous pourrez obtenir plus d'informations sur Ventipo et le Cerro de la Atalaya.
Nous savons que la ville de Ventipo existait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, encore que l'on n'ait retrouvé que quelques vestiges de bâtiments, le reste étant enfoui sous terre.
Les recherches archéologiques nous ont révélé que la ville a connu quatre étapes historiques. L'étape turtédane, l'étape de la République romaine et des guerres civiles, l'étape du Haut Empire et l'étape de l'Antiquité tardive. Toutes ces étapes sont fort bien présentées dans les textes de la salle. Cette salle nous parle également d'un autre site archéologique de la région, la Villa del Caparal. Les vestiges de cette villa romaine, bâtie entre le IIIe et le Ve siècle, ont été mis au jour lors d'une intervention archéologique menée après la découverte fortuite d'une mosaïque du jugement de Paris sur ce site en 1985.
J'adore la maquette! Elle montre toutes les pièces des maisons romaines! Elles ne sont pas trop différentes des grandes maisons de campagne d'aujourd'hui?
L'agencement spatial de cette villa était probablement le même que celui des autres villas romaines rurales.
Je vais vous dire comment s'appelait chaque pièce et à quoi elle servait. L'atrium est un espace ouvert entouré d'un portique et situé à l'entrée du bâtiment. Leur nombre pouvait varier selon la taille de la villa. L'impluvium est un bassin rectangulaire situé dans l'atrium qui servait à récupérer l'eau. L'eau de pluie s'y écoulait par le compluvium, une ouverture rectangulaire percée au milieu du toit, par laquelle la lumière du soleil pénétrait également pour éclairer les pièces. Lecus est une grande salle de réception qui servait d'auditorium privé pour écouter de la musique, de la poésie et voir des spectacles de danseurs et acrobates. Il était également utilisé à l'occasion des grands banquets. Il était somptueusement décoré de peintures murales, de sculptures ou de mosaïques.
Le tablinum était la pièce de la villa consacrée au travail bureaucratique, à la gestion de la villa et de ses domaines, et au commerce de produits, principalement de l'huile.
Le tablinum est l'une des pièces les plus importantes de la villa. Son nom vient de tabula, un terme qui désigne à la fois les documents familiaux, les archives, les images et les tablettes dont s'entourait le chef de famille.
Je ne sais pas si j'arriverai à me souvenir de tous ces noms latins.
La salle principale expose les pièces les plus importantes de la collection muséographique. Vous pouvez y admirer une partie des mosaïques mises au jour dans la Villa del Alcaparral.
Quelle jolie salle ! Et là, de quoi allez-vous me parler ?
Je vais te parler des mosaïques qui se trouvent devant toi, afin que tu puisses mieux les comprendre. La mosaïque est l'une des plus anciennes représentations artistiques connues. La mosaïque nous apporte des informations qui nous permettent de mieux comprendre le monde antique, son art et ses traditions. Il existe deux types de mosaïques, celles qui sont décorées de motifs géométriques et celles qui représentent des personnages. Si nous les observons de plus près, nous verrons que les mosaïques sont composées de tesselles.
Les tesselles sont les petits morceaux qui permettent de réaliser les dessins.
Tout à fait, tu as tout compris. La mosaïque est composée de ces pièces appelées tesselles. Elles sont généralement de forme cubique. L'artiste les utilise pour créer son œuvre à la manière d'un puzzle où les pièces s'emboîtent parfaitement les unes aux autres. Toutes sont assemblées avec du mortier. Il est également possible d'utiliser d'autres matériaux, tels que la céramique ou le verre. Le fait d'utiliser des tesselles de différentes couleurs et matériaux donne à la mosaïque l'aspect d'un tableau. Certaines mosaïques utilisent des tesselles bicolores, généralement noires et blanches. Ces mosaïques sont appelées bichromes, tandis que celles qui recourent à de nombreuses couleurs sont appelées polychromes.
La première mosaïque de la pièce est en noir et blanc. Il y a une bande de motifs géométriques tout autour, mais à l'intérieur, je ne sais pas trop. On voit des motifs, mais on dirait plutôt un tapis.
Il s'agit d'un réseau de svastikas et d'hexagones reliés entre eux. Et comme tu l'as dit, la mosaïque est entourée d'une frise de losanges.
Il y a aussi des mosaïques colorées et certaines représentent des personnes.
Les mosaïques polychromes sont apparues pendant la période de Trajan, entre 98 et 117 après Jésus-Christ, lorsqu'on a commencé à utiliser des matériaux de différentes couleurs pour obtenir un effet plus pictural.
La mosaïque vedette de la collection, celle qui raconte le mythe du jugement de Paris, occupe une place prédominante dans cette salle.
Un mythe? Qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est la première fois que j'entends parler de Paris.
Un mythe est une histoire fictive impliquant les dieux et les héros d'une culture. Dans cette mosaïque devant nous, Paris apparaît avec une pomme à la main, qu'il est censé offrir à la plus belle des déesses. Derrière lui, on aperçoit Mercure, le messager des dieux chargé de remettre la pomme. Devant Paris, les déesses Minerve, Junon et Vénus attendent anxieusement le verdict.
La mythologie est l'ensemble des mythes et légendes d'une culture antique qui met en scène ses dieux et ses héros, la nature du monde, les origines et la signification de ses propres cultes et pratiques rituelles. Lors des noces de Thétis et Pélée, Eris, la déesse de la discorde qui n'avait pas été invitée au banquet, s'y présenta et jeta rageusement une pomme aux pieds de Minerve, Junon et Vénus pour que la plus belle l'attrapât. Une dispute ayant éclaté entre les déesses, Jupiter décida que ce serait Paris, fils du roi Priam, réputé pour sa sagesse et son bon jugement, qui trancherait. Et Paris donna la pomme à Vénus.
La déesse Vénus était-elle la plus belle de toutes?
Les trois déesses étaient très belles. Chacune promit des faveurs à Paris afin de remporter ce concours de beauté. Junon s'engagea à faire de Paris le souverain de l'Asie. Minerve lui concéda la victoire dans toutes les batailles et Vénus lui offrit l'amour d'Hélène de Sparte.
Cette décision eut de graves répercussions, car Hélène était l'épouse du roi de Sparte, Ménélas. Et ce dernier, sous l'emprise de la colère, tenta de reprendre sa femme en assiégeant et en incendiant la ville de Troie où Hélène et Paris se trouvaient.
Pour finir, regardez par les orifices d'en bas deux autres mosaïques intéressantes.
Va-t-on voir d'autres mosaïques dans la salle numéro 4? Car moi, j'ai adoré!
Nous venons de voir les mosaïques. Mais, dans cette salle, nous allons apprendre comment elles étaient faites. Les artisans réalisaient un travail difficile. Nous pourrons voir les outils qu'ils utilisaient, les techniques qu'ils connaissaient et les différentes méthodes du processus de fabrication de la mosaïque.
Vous m'avez dit beaucoup de choses sur les mosaïques! Mais je ne sais toujours pas ce que veut dire le mot « mosaïque ».
Le mot « mosaïque » vient du mot grec « musa », car dans le monde antique, on considérait qu'un art aussi magnifique devait être lié aux muses, ces femmes inspiratrices qui invitaient ou encourageaient l'artiste à créer. La mosaïque a donc été considérée dès le départ comme une activité artistique. L'élaboration d'une surface en mosaïque demandait plusieurs phases de travail. D'où le besoin d'équipes spécialisées, regroupées en ateliers, pour réaliser chaque pan de la mosaïque.
Trois types d'artisans exerçaient différentes fonctions. Le pictus imaginarius s'était chargé de transposer le dessin sur la base de la mosaïque. Le telesarius posait les tesselles sur les mosaïques de sol. Et le musiarius posait les tesselles sur les mosaïques murales. Dans de nombreux cas, cependant, un même artisan pouvait effectuer l'ensemble de ces tâches.
Notre visite du premier étage est terminée. Rendons-nous à présent au rez-de-chaussée pour visiter la salle numéro 5. Au cours de la visite, nous avons vu comment les Romains sont arrivés en Hispanie. Je vous ai expliqué à quoi ressemblaient les villas dans lesquelles ils vivaient et nous avons parlé des mosaïques qui les décoraient. Pour finir, nous allons en apprendre un peu plus sur leurs coutumes et nous observerons de plus près les mosaïques que nous avons vues lorsque nous étions en haut, dans la salle principale.
L'aristocratie hispano-romaine s'est installée dans des villas rurales qui sont devenues les nouveaux centres de la vie économique, politique et rurale.
Je vois qu'il y a aussi des textes qui nous expliquent des choses sur le mode de vie des Romains.
En lisant les textes, nous en apprendrons davantage sur la société de l'époque, sur les différentes classes sociales et sur quelque chose qui risque de te plaire, ce qu'ils mangeaient. En effet, pour les Romains, le moment du repas était essentiel. Comme nous, ils avaient une salle à manger. Ils l'appelaient le triclinium.
La gastronomie, la musique et les rites religieux viennent parachever le voyage que nous avons entrepris à travers la vie des habitants de la Baetica de l'époque romaine.
Cette salle évoque également un autre site archéologique de Casarice, les carrières romaines du Cerro Bellido. De grandes pierres de forme cylindrique, comme celles conservées dans cette salle, en étaient extraites. Le travail dans les carrières devait être très intense. Il est même possible que cette enclave ait été habitée par les ouvriers ou esclaves qui y travaillaient, comme en témoignent les nombreux vestiges de céramique et d'ustensiles en fer trouvés dans la zone. C'est la fin de la visite.
Et si on revenait un autre jour? Mais d'abord, j'aimerais bien voir les carrières du Cerro Bellido.
Je pense que c'est une bonne idée. Allons les visiter.